Nadim.
Bonjour Arnaud.
Deuxième module de notre cours de notions avancées sur Active Directory. On a vu la réplication il y a quelques instants, donc les mécanismes de fonctionnement de l'AD, comment il réplique ses objets. Il y a une autre partie très importante dans Active Directory, c'est la réplication des stratégies de groupe, des paramètres qu'on va appliquer sur les machines de l'organisation. Donc on va regarder dans un premier temps pour ce module quelles sont les technos qui sont utilisées pour répliquer entre les contrôleurs de domaine les informations, parce que c'est pas les mêmes que celles de l'Active Directory, pas exactement les mêmes. Tu vas nous en dire un petit peu plus dans quelques instants. Et puis, on verra aussi comment structurer un objet GPO en tant que tel. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire pour surveiller si une GPO est saine, en tout cas est susceptible d'être appliquée. Ça te va comme programme ?
Ça va très bien.
Et ben, c'est parti pour les stratégies de groupe dans l'Active Directory. Alors, d'abord, où est-ce qu'on stocke les stratégies de groupe dans l'Active Directory ?
Donc, nous avons deux parties. D'une stratégie de groupe. Une stratégie de groupe se compose de deux grandes parties. Une qui est dans l'Active Directory, qui est répliquée avec le mécanisme de réplication de l'Active Directory que nous avons vu dans le module réplication Active Directory. Et une autre partie qui est sur une partition qui est dans un répertoire qu'on appelle le SysVol. Ce répertoire SysVol est partagé au sein du même domaine par tous les contrôleurs de domaine et contient la partie qui est appliquée de la stratégie du groupe et la partie de la template d'administration, par exemple, pour éditer ces stratégies de groupe. Ainsi, de scripts qui sont dans le partage NetLogon, qui est aussi présent sous ce répertoire SysVol.
Donc, ça veut dire globalement que quand une machine boot, elle va aller voir l'Active Directory, dire voilà, je suis telle machine, qu'est-ce que je dois appliquer comme GPO ? Elle va énumérer ce qu'il y a dans l'Active Directory et puis ensuite, elle va aller récupérer les fichiers qui sont positionné à l'emplacement qu'elle lui est désignée, c'est ça ?
Exactement. C'est-à-dire que ces fichiers sont positionnés soit pour une machine, soit pour un utilisateur. Ce sont des stratégies de groupe qui sont configurées au niveau de l'Active Directory. Si vous ouvrez votre console utilisateur et ordinateur, sur chaque OU, vous pouvez après éditer les stratégies de groupe dans une console qui s'appelle GPMC, Group Policy Management Console, et vous pouvez donc appliquer ces stratégies de groupe au niveau local d'une machine, au niveau d'un site Active Directory, au niveau de tout le domaine ou au niveau de chaque unité d'organisation ou sous-unité d'organisation.
Yes. Alors en tant que système, les GPO sont répliqués sur l'ensemble des contrôleurs de domaine, leur partie fichier en tout cas, elle est répliquée sur l'ensemble des contrôleurs de domaine et elle est distribuée en utilisant un mécanisme qu'on appelle le Distributed File System. Exactement. Donc en fait, une machine cliente, elle va toujours essayer de localiser une GPO en utilisant le chemin backslash backslash nom du domaine slash sysvol slash nom du domaine slash policy avec la policy qu'elle la cible.
Exactement.
Et donc, cette symbolique de Distributed File System, là, c'est pour la distribution d'un, on appelle un namespace, un DFSN.
Qui permet à un utilisateur ou une machine ne pas savoir sur quel serveur elle va récupérer ses données. C'est transparent au niveau.
Voilà, et c'est la notion de site de l'Active Directory qui va lui déterminer quel est le DC qu'on va prendre.
C'est une notion de site, c'est une notion de DNS qu'on va voir aussi plus tard, qui est liée donc à, encore une fois, l'optimisation de notre bande passante et de récupérer donc ces fichiers et ces stratégies du contrôleur de domaine le plus proche.
Ouais, alors là, c'est des fichiers qu'on parle dans le SysVol, donc ce n'est pas les mêmes mécanismes que la réplication de l'Active Directory.
Exactement.
Donc on a deux mécanismes qu'on va étudier dans quelques instants, mais déjà une notion très importante, c'est que par rapport à la réplication de l'Active Directory qui est une notion de forêt, on est là à la notion de SysVol qui est par
domaine.
Voilà, donc très différent dans sa nature.
Effectivement. Cette notion de réplication du Distributed File System qui est sur une arborescence Distributed File System de différents partages. Et dans notre cas particulier, puisque nous sommes sur le cas d'Active Directory, sur donc, ce partage assez spécifique, qui est un partage donc, DFSN classique, mais avec des notions différentes d'un autre partage DFSN, car ce sont uniquement les contrôleurs de domaine qui le partagent, et tous les contrôleurs de domaine doivent le partager, elles doivent avoir les mêmes informations. Donc nous allons utiliser le même moteur qu'on appelait FRS, File Replication System, et qui a été remplacé à partir de Windows 2008, donc Windows 2003 R2 pour la partie DFSN, et Windows 2008 pour la partie SysVol.
D'accord.
Donc DFSR pour Distributed File système replication.
Replication. Donc c'est ce nouveau mécanisme de réplication de fichiers qui sera plutôt qu'on aura plutôt tendance à favoriser dans les nouvelles versions de Windows. Tu vas nous dire pourquoi, et je crois que ça va paraître assez évident pourquoi aux gens dans quelques instants quand on va expliquer les deux mécanismes.
Effectivement.
Allez, la réplication 6 vols par FRS, donc File Replication Service.
Donc si nous nous concentrons sur la partie du 6 vols qui est ce partage particulier, FRS va se baser sur la topologie de réplication Active Directory que nous avons vu plus tôt. Mm-hmm. Cette notion de topologie de réplication Active Directory, FRS va se baser à 100% dessus, et donc nous ne pouvons pas, en tant qu'administrateur, modifier la notion de réplication de topologie de File Replication Service du 6 vols d'une façon différente par rapport à celle de l'Active Directory. Donc une fois que FRS va dans l'Active Directory récupérer cette notion de topologie, mm-hmm. donc les objets de connexion que le KCC avait créés pour les réplications Active Directory, il va avoir cette topologie basé sur cette topologie Active Directory, mm-hmm. Et va utiliser la partition NDFS. Donc, première condition, nous ne pouvons pas avoir de 6 vols ou de partage DFSN sur une partition.
Du FAT32 par exemple, FAT32, c'est pas possible.
Exemple. C'est pas possible. Sur cette partition NTFS, nous allons avoir un mécanisme de ce qu'on appelle un USN journal. Donc, c'est un log cyclique, hein, de partir de SP1 Windows 2003. Nous avons un log de 512 mégas mm-hmm. Qui nous permet de loguer tout changement sur la partition NTFS. FRS va monitorer ce fichier mm-hmm. et va récupérer toutes les modifications liées au fichier et répertoire présent dans le 6 vols.
Donc comme le nom l'indique, c'est une réplication qui est vraiment basée par fichier.
Exactement. C'est une réplication qu'on appelle log-based parce qu'elle se base sur le log NTFS journal. La réplication Active Directory, on l'appelle state-based parce qu'elle va dépendre de l'état des USN de chaque contrôleur de domaine.
Parfait. Alors, je te donne le contrôle et puis on va regarder ça un petit peu dynamiquement à quoi ça ressemble. Donc on a notre
DCA. Donc on a un contrôleur A, nous avons un fichier. Une fois que le fichier est fermé, hein, prenons un exemple tout simple. On a édité un script avec Notepad, nous avons enregistré, le fichier est fermé. L'information est loguée dans ce fameux log NTFS Change Journal. Mm-hmm. FRS va monitorer donc ce log, va récupérer ce fichier. Il a un filtre d'exclusion. Hein, les points TMP, les points BAC par exemple ne sont pas répliqués. Nous pouvons rajouter des extensions si on le veut dans ce filtre. Mm-hmm. Si par exemple vous avez des points...
Des points BKP, par BKP, exemple,
par exemple
ou des points MP4.
MP4 ou MP3.
On a vu ça, hein, des gens qui utilisaient la réplication du 6 vols pour sauvegarder leur backup.
C'est pas très malin, mais c'est vrai que ça, si ça réplique bien, ça peut aller vite entre les sites, mais ouais. c'est pas fait pour ça.
Ouais, moi, j'avais un client qui mettait ses fichiers de backup dans le 6 vols, en fait, où il y avait des contrôleurs de domaine en Asie qui étaient une réplication 64K. Donc, tu peux imaginer qu'un backup de plusieurs gigas dans le 6 vols, ça allait prendre du temps. Donc, on avait une accumulation de tous ces changements qui étaient faits dans le journal.
Qui vont, bien entendu, pénaliser les petits changements très importants de nos stratégies de groupe, de nos scripts de logon, par exemple.
Ouais.
Puisqu'ils vont être en attente de réplication, dans la queue de réplication des informations plus tôt.
Donc, on peut jouer sur les exclusion filters pour un peu maîtriser comme ça ce qui pourrait ne pas être répliqué.
Une fois qu'on passe le filtre, hein, si on a un point VBS comme script, donc ce n'est pas dans le filtre, on va aller donc ce qu'on appelle le aging cache. Hein, mm-hmm. On va attendre 3 secondes pour prendre les dernières modifications, mm-hmm. pour éviter qu'il y ait un grand nombre de réplications.
D'accord.
Donc on attend ce qu'on appelle un aging cache. Mm-hmm. Au bout de 3 secondes, donc on va commencer à inscrire dans notre base FRS. Hein, donc c'est une base JET qui se situe dans Windows System et qui permet de tous ces changements d'informations entre les différents contrôleurs de domaine. Une fois qu'on a inscrit dans notre base FRS ces changements-là, on va notifier, hein, de la même façon si vous avez bien regardé notre module réplication Active Directory, uh-huh. nous avons la même notion de notification intra-site et inter-site. En intra-site, FRS va notifier ses partenaires de réplication qui est un changement par rapport à un fichier en répertoire dans le sysvol. Mm-hmm. En intersite, il va attendre l'intervalle de réplication pour répliquer tout le delta qu'il y a eu entre la dernière réplication et la nouvelle.
Parfait.
Le nouveau contrôleur, donc le partenaire de réplication qu'on appelle computer B dans notre cas, va récupérer donc ce fichier, va le copier donc ce qu'on appelle le staging area. Donc ce staging area, c'est un répertoire qu'on peut appeler aussi salle d'attente, si on veut bien. FRS est un mécanisme de compression et de décompression des fichiers et aussi fait une copie du fichier. Pourquoi ? Parce que, à la différence d'un Objective Directory qui est au sein d'une base NTDS.dit qui est protégée par le process LSASS, on va le voir un peu plus dans notre module d'état de santé et de performance des contrôleurs de domaine, ces objets sont protégés donc par ce process LSASS. Par contre, pour le sysvol, qui est dans la partition système, et donc le fichier peut avoir un handle, c'est-à-dire être utilisé par une autre application, et empêche sa réplication. Dans ce cas, FRS a été développé dans le sens de faire une copie du fichier, la compresser, elle est répliquée, le DCB va la mettre dans la staging area, donc c'est la salle d'attente qui permet l'embarquement et le débarquement.
Ouais.
Dans le sens débarquement, il va décompresser le fichier, le renommer avec son nom original et le mettre dans la destination finale.
D'accord.
Si, en gros, comment fonctionne la réplication FRS de fichiers entre deux contrôleurs de domaine.
Application donc assez basique, on va dire. Hein.
Assez basique, avec certaines conditions à respecter. Le système de réplication est garant donc de la récurrence donc des changements à travers les contrôleurs de domaine, que ce soit pour la réplication Active Directory ou pour le sysvol. Ces moteurs de réplication garantissent donc cette constance. On ne peut pas la bypasser.
D'accord.
La première règle qu'on apprend sur un Active Directory, c'est de dire si une information n'est pas présente sur un contrôleur de domaine, malgré qu'on l'ait créé ou modifié sur un autre, jamais la copier, la créer à nouveau. Il faut soit attendre le mécanisme de réplication, qui est la façon propre, soit troubleshooter, donc chercher l'anomalie pourquoi cette information n'est pas présente.
Ouais.
Donc, dans le cas d'FRS, par exemple, si nous copions le script et nous le mettons sur les autres contrôleurs de domaine, nous allons avoir des conflits de version parce que chaque fichier répertoire a une version unique NTFS. Pour cette garantie de garder la même version à travers les différents contrôleurs de domaine, il n'y a que la réplication FRS, ou on va le voir d'FSR, ou le backup restore qui permet l'unicité de cette version.
Donc on ne crée surtout pas la chose, on peut forcer la réplication dans une certaine mesure.
Voilà.
Alors juste pour balancer le mot, hein, D4, D2, c'est à ce moment-là.
C'est un mécanisme assez délicat à mettre en place, où on peut restaurer de façon autoritaire ou de façon autoritaire notre sysvol. Nous avons un article technique qui explique bien cela. Nous ne vous aventurez pas à faire ce type de manipulation sans être sûr d'avoir compris son mode de fonctionnement.
Alors, juste un mot, D2, c'est tu dis à un DC, va récupérer tes GPO depuis n'importe quel DC de l'organisation parce que c'est pas bon en local, enfin, telle ou telle raison, on a dit que c'était pas bon. Et un D4, là, on va passer dans un mode où on détermine qu'un DC doit être celui qui fait autorité. C'est pour ça qu'on dit que c'est une réplication autoritaire. Donc on positionne un DC avec FRS en mode D4 et ensuite on va positionner par batch des lots d'autres contrôleurs de domaine en mode D2 qui vont les répliquer sur le DC qui est en mode D4. Donc ça c'est le mode autoritaire par rapport au mode non autoritaire que j'ai expliqué avant où on met simplement un seul DC en D2. Mais ça ne le fait que dans le cas où il y a un problème qui a été diagnostiqué sur l'AD et un DC qui utilise la réplication FRS puisque ce sont d'autres mécanismes qui existent dans la DFSR pour forcer la réplication DFSR, bien sûr.
Exactement.
Allez, on vient parler de DFSR justement, parce que c'est le nouveau mécanisme de réplication. En quoi c'est différent déjà par rapport à ce vieux mécanisme ?
Nous n'avons pas réinventé la roue, hein. Ça reste la base du fonctionnement de FRS, DFSR.
Ouais.
Nous avons rajouté des briques pour pouvoir résoudre certaines problématiques que nous avons sur FRS et une donc meilleure optimisation du fonctionnement du moteur de réplication de fichiers, ainsi que l'optimisation aussi de bande passante, vu que nous avons rajouté des fonctionnalités comme la synchronisation de fichiers par bloc de 64K. Mm-hmm. Avant FRS, si j'avais un script qui faisait 1 méga et j'ai modifié une seule ligne de ce script, et ben malheureusement FRS réplique la totalité du fichier. Mm-hmm. Maintenant, on réplique uniquement le bloc 64K ou les différents blocs 64K qui ont été modifiés.
Ouais.
Donc c'est pas mal comme
ça économise un peu de bande passante aussi.
Exactement. Le Remote Differential Compression aussi, donc ça nous permet de bien utiliser cette notion de bloc 64K à travers la réplication juste des objets qui ont été modifiés.
Ouais, par rapport à des blocs de données que j'aurais déjà en local, par exemple, je vais éviter de les retransmettre sur le câble. Je vais dire, j'ai tel bloc en local, je l'arrange, je le positionne à tel moment dans le fichier.
Exactement.
C'est le principe de la RDC.
Exactement.
On verra ça dans un petit schéma tout à l'heure, je crois.
Exactement. Nous avons aussi pas mal de autocorrection, si on peut appeler ça comme ça, mm-hmm. De DFSR par rapport à FRS sur des objets en collision. Donc, si on crée des répertoires sur un autre contrôleur et on va les recréer sur un autre parce qu'on ne veut pas attendre que la réplication se fasse, donc on va se retrouver avec des objets en collision. Mm-hmm. Sur la partie de l'état de l'USN Journal, donc ce log NTFS, si FRS ou DFSR est arrêté, le log continue à fonctionner. Quand le service de réplication de fichiers démarre, il va vérifier le delta entre, puisque c'est un journal cyclique, mm-hmm. Entre son arrêt et tout ce qui s'est passé sur ce journal NTFS. Et donc, s'il considère qu'il a pu perdre des informations, il se met dans un état qu'on appelle le journal wrap. Un wrap étant comme le sandwich wrap mm-hmm. cyclique, mm-hmm. Et s'arrête de répliquer. Donc, ça, c'était un problème qu'on avait de temps en temps sur FRS,
ouais.
Et qui est automatiquement corrigé par DFSR. Pourquoi ? Parce que DFSR, nous avons rajouté cette notion de state-based replication, un peu comme la réplication Active Directory, où on a des identifiants à travers les DC pour savoir dans quel état nous sommes.
Bon, on l'a compris, c'est beaucoup plus intelligent. Peut-être un petit aperçu du mécanisme de réplication, comme ça, globalement, hein, on va chercher à créer des hashes, des morceaux de fichiers, et puis on va vérifier par rapport à cette liste de hashes ce qu'on a déjà transmis, ce qu'on n'a pas encore transmis, qu'est-ce qui a changé, et on va transmettre sur le câble que ce qui a changé entre-temps.
Effectivement.
Je résume bien ou…
Très bien. par rapport au SysVol, effectivement, c'est autocorrection de certaines problématiques connues avec FRS et de l'optimisation de la bande passante, mm-hmm. Est important sur SysVol. Mais effectivement, DFSR nous apporte aussi pas mal de notions d'amélioration au niveau de fichiers d'arborescence DFSN, hein, mm-hmm. donc de réplication de fichiers hors SysVol, où certaines limites avec FRS, où on les dépasse pas mal avec DFSR sur des gros fichiers, sur le nombre de réplica sets, c'est-à-dire de serveurs qui partagent les mêmes répertoires, etc.
Ouais. Alors, est-ce qu'on a des recommandations, Nadim, là, et surtout comment ça se passe? Parce que, on va dire, j'ai promis un DC en 2000, par exemple, un Windows 2000.
Alors, jusqu'à 2003. Mm-hmm. Si votre forêt existe, alors on a deux types d'environnement. On a les types d'environnement, ce qu'on appelle du legacy, c'est-à-dire que vous avez votre Active Directory depuis Windows 2000, depuis sa création, et au fur et à mesure où vous avez mis à jour votre Active Directory jusqu'à 2012 R2 par exemple, à ce moment-là, vous héritez à chaque fois de votre moteur d'application FRS.
D'accord.
Si vous avez créé votre forêt à partir du moment où c'était Windows 2008, mm-hmm. votre SysVol automatiquement va répliquer avec le nouveau moteur de réplication DFSR.
Il ne va pas aller chercher FRS, il va tout prendre le dernier.
Exactement.
Logiquement.
Disons que vous avez un AD en Windows 2003 actuellement, SP2, mm-hmm. et vous avez déjà migré tous vos contrôleurs de domaine à Windows 2012 R2 par exemple, mm-hmm. et du coup, votre schéma a été mis à jour, domaine préparé, vous avez promu vos contrôleurs de domaine 2012 R2, vous vous êtes débarrassé des contrôleurs Windows 2003. À ce moment-là, vous avez toujours le moteur d'application FRS. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné où vous êtes en basculement entre des DC 2003 et des DC 2012 R2 ou 2008 R2 d'ailleurs, 2003 ne comprend pas d'FSR pour le 6 vol et donc nous ne pouvons pas avoir de type de moteur de réplication. À partir du moment où vous êtes complètement sur 2012 R2 ou 2008 R2, vous pouvez, et c'est à vous de le faire, de migrer donc ce moteur de réplication FRS vers un moteur de réplication DFSR grâce à un outil qui s'appelle DFSR-MIG, qui est par défaut sur le contrôleur de domaine. Et nous vous recommandons de le faire à partir du moment, c'est la condition bien entendu, de monter le niveau fonctionnel de votre domaine en Windows 2008 ou Windows 8 R2 ou 2012 R2.
Alors c'est une étape qui est, c'est un processus qui peut faire un peu peur a priori, mais qui est relativement fiable et surtout qui se fait par étapes, parce qu'avec DFSR-MIG, on va pouvoir passer en différents états transitoires où on va commencer à répliquer l'AD avec, le 6 vol pardon, avec FRS. Ensuite, on va créer un réplica avec DFSR en parallèle pour voir que tout se passe bien, il n'y a pas de problème
nous
majeur.
Nous avons quatre états. Au bout du troisième état, nous pouvons toujours revenir en arrière. Donc on a les deux moteurs en application. À partir du moment où on passe à la dernière étape, qu'on appelle Eliminated, à ce moment-là, FRS, donc l'outil DFSR-MIG automatiquement va arrêter le service NTFRS sur tous les contrôleurs de domaine et toutes les GPO, donc les stratégies de groupe et les scripts, sont répliqués par le nouveau moteur DFSR avec un nouveau 6 vol DFSR aussi.
Impeccable. Donc simple.
Nous vous recommandons, à partir du moment où vous montez votre niveau fonctionnel, 2008,
à partir de 2008, c'est ça,
ou plus, de penser à mettre en place un moment pour migrer votre moteur de réplication, à prendre le temps à chaque fois de vérifier entre chaque étape, ces quatre étapes de migration, que tous vos contrôleurs de domaine ont la même information. C'est la recommandation, et si on, en quelque sorte, le tips, pour que ça se passe bien.
Impeccable. Dépannage du 6 vol, on a tous les mécanismes de base qui vérifient qu'on a bien la réplication de nom entre les DC, qu'ils ont bien la possibilité de se discuter entre eux. Vérifier le statut de FRS et de DFSR.
Journaux d'événement assez riche pour les deux, très riche.
Trop, parfois, mais certains diront.
C'est toujours intéressant d'avoir plus d'informations que moins d'informations.
Ouais.
Une fois que on avance un petit peu plus dans le troubleshooting, nous avons deux outils qui sont disponibles sur Internet, que ce soit FRS-DIAG ou DFSR-DIAG, qui est par défaut d'ailleurs sur les contrôleurs de domaine, qui permet de nous créer beaucoup plus de verbosité sur les logs de réplication de ces deux moteurs.
Alors FRS-DIAG, qui je crois a causé de nombreux suicides parmi les ingénieurs support, à cause de sa verbosité légendaire.
Effectivement, ça crée pas mal d'analyses et de temps à passer dessus.
Oui, donc on peut les imprimer et on peut se chauffer pour l'hiver avec un log FRS-DIAG. Petit changement dans la nature aussi du monitoring de ces deux choses. Avec FRS, si on veut monitorer efficacement un environnement, on peut soit le faire avec ultrasound ou sonar, qui sont les deux outils. Et d'ailleurs, si on veut mettre en place un MOM, un Operation Manager, un SCOM, donc System Center Operation Manager, qui va faire du monitoring de mon Active Directory, ça
Lui intégrer Ultrasound, qui est un module en plus qui va gérer cette réplication, qui va superviser cette réplication FRS.
Donc c'est un truc en plus que les gens pensaient pas forcément à activer à l'époque. Donc encore une raison supplémentaire pour passer vers DFSR, parce que là du coup on n'a pas installé d'outils supplémentaires. À partir du moment où Operation Manager est installé, on va faire le monitoring de l'AD et de l'application du 6 vol avec DFSR sans ajouter du serveur ultrasound en plus.
Effectivement, et l'avantage de DFSR aussi, dans sa console d'administration, nous pouvons faire des tests de propagation où il va créer un fichier texte et essayer de le répliquer à travers tout le 6 vol de tous les contrôleurs de domaine, et ça permet effectivement de confirmer que l'application DFSR du 6 vol fonctionne bien. Et donc comme nous vous recommandons vivement de finir votre migration Windows 2003 si vous ne l'avez pas déjà effectuée, de penser donc à planifier la mise à jour ou la montée de votre niveau fonctionnel ainsi de la migration de DFSR dans la foulée.
que de richesses en bonne pratique. Nadim, très intéressant de t'avoir pour discuter de tous ces sujets. Hein.
Merci, cher Arnaud.
Donc, les problèmes de réplication courant, on a déjà évoqué un certain nombre. Le journal Wrap t'en parlait, le manque d'espace disque. Bah, ça paraît bête à dire, mais parfois, les contrôleurs de domaine, prends l'exemple des contrôleurs de domaine 2003 qui répliquaient avec FRS. Hein. Ils ont été taillés il y a déjà pas mal d'années. Et puis, bah, patch s'accumulant, nouveautés fonctionnelles s'accumulant, bah, l'espace disque se fait parfois rare. Donc, c'est une chose qu'il faut véritablement monitorer sur les décès également. Sinon, on peut avoir... Bah, ça peut être des cas classiques où on se passe des journaux Wrap ou ce genre de choses après. Hein.
Effectivement, la création de plusieurs stratégies de groupe, à chaque fois qu'on crée une stratégie de groupe, en 2003 par exemple, ça va nous créer des templates d'administration qui sont de l'ordre de 3 à 4 mégas. Mm-hmm. Donc ça va très vite, à une centaine de GPO, nous sommes déjà à 300-400 et si vous avez 1000 GPO, ça augmente la taille de votre sysvol, la réplication. De nouveaux contrôleurs de domaine ou de restauration du sysvol. Dans ces cas-là, c'est important de aussi monitorer l'espace disque.
Ah, tu me fais penser aussi un truc pendant que tu es en train de parler de ça. On parle de effectivement l'édition d'une première d'une GPO qui fait gagner 5 mégas à la GPO parce qu'on va copier ce qu'on appelle les fichiers ADM à l'intérieur de la GPO, qui est juste en fait un visu qui va permettre à GPMC d'afficher les paramètres administratifs supplémentaires.
C'est des templates qu'on ne modifie pas. Ouais. C'est des templates qui sont à titre d'édition uniquement.
Voilà, qui ne sont pas utilisés par l'AD en tant que tel. Donc ce qu'on peut faire, une optimisation qu'on peut faire déjà dans les domaines où on a plus de Windows XP ou de 2003 qui est utilisé pour éditer les fichiers de GPO, mais si on n'utilise que des machines supérieures à ces OS-là, on n'aura plus ce comportement qui va être fait. C'est-à-dire qu'on ne poussera plus les ADM ou ADMX dans l'intérieur du sysvol. Donc ça permet déjà d'économiser la place du sysvol. Et puis même une chose qu'on peut recommander, hein, c'est si vous n'avez plus du tout de 2003 ou de XP, c'est qu'on peut même faire une purge des fichiers ADM à ADMX. Il y a des articles sur TechNet qui décrivent ça en détail.
Si vous vérifiez, vous trouverez très souvent entre 70% à 90% de la taille de votre sysvol est basée sur ces points ADM. Donc c'est ces templates qu'on a pas besoin d'aller avoir sur chaque contrôleur de domaine.
Alors ça peut se dire, on peut se dire c'est accessoire de faire ça, de s'occuper de ça, mais bon, sur des sites distants où tu n'as pas beaucoup de réplication, de fenêtres de réplication ouvertes, bah, globalement tu vas passer du temps en réplication à répliquer des choses qui n'ont aucun intérêt, qui sont tout le temps les mêmes. Et puis le cas où ça va être vraiment super important, c'est dans le cas de désastre. Par exemple, tu veux faire un retour sur un contrôleur de domaine, tu veux le restaurer, bah, en fait tu passes ton temps à attendre que ton décès soit opérationnel parce qu'il a récupéré l'ensemble de ses GPO et t'attends pour des choses qui ne sont pas utiles pour la prod en fait.
Effectivement. Et pour rejoindre ce que tu dis par rapport à ce contrôleur de domaine qui est en train de reconstruire un sysvol, sachant qu'un sysvol non partagé, le contrôleur de domaine dans ce cas ne se voit pas contrôleur de domaine.
Il n'est pas effectivement…
Voilà. Donc le contrôleur de domaine a des services très importants d'authentification, par exemple NetLogon, de KDC, donc service distribution de tickets
Kerberos,
très important, de synchronisation temps, mm-hmm. c'est un serveur de temps, et bien entendu, de partage de stratégie groupe strip de logon via le sysvol. Tous ces mécanismes ou services qu'un contrôleur de domaine propose, mm-hmm. si l'un d'eux n'est pas disponible, le contrôleur de domaine ne se considère pas contrôleur de domaine.
Donc très important.
D'où l'importance de ce sysvol dont on mentionne sa réplication, son partage, etc.
Et c'est là où on rejoint sur les autres points qu'on mentionnait tout à l'heure. Hein. On ne stocke pas les MP4, les DivX dans le sysvol, ni les fichiers de backup, parce qu'il y a peut-être de meilleurs endroits pour supporter ça. Hein. Un bon fichier, un bon DFSR à part avec un DFSN pour répliquer vos meilleurs souvenirs de vacances en format MP4. Quelques petites choses qui peuvent exister aussi dans le sysvol. Il peut avoir par exemple des fichiers qui sont là et qui n'ont plus raison d'être là. Par exemple, une GPO que tu es en train de supprimer et puis un instant T, tu as quelqu'un qui est en train d'essayer de l'appliquer. Donc là, en fait, quand tu supprimes ta GPO, GPMC va supprimer la GPO, mais tu ne pourras pas récupérer le fichier, tu ne pourras pas le supprimer puisqu'il y a quelqu'un qui a un log dessus. Donc dans ce cas-là, on peut avoir des objets comme ça un peu fantômes, un peu lingering, qui traînent sur la D. Je parle d'Orphan.
Effectivement, avec GPMC, nous avons des scripts par défaut qui peuvent vous aider à vérifier est-ce que vous avez ce type d'objets orphelins. Est-ce que vous avez des GPO qui ne sont pas liés, mais qui polluent peut-être votre Active Directory, que vous pouvez backuper via notre site script qui s'appelle Backup All GPOs, où on recommande d'ailleurs vivement, à part votre politique de sauvegarde de l'état du système, du contrôleur de domaine, c'est d'avoir une politique de sauvegarde uniquement des GPO via GPMC et Backup All GPOs. Ça vous permet, si il y a accidentellement vous supprimez une GPO, de ne pas avoir restauré toute l'AD ou une partie de l'AD, mais uniquement avec GPMC, vous pouvez restaurer votre GPO en deux clics.
Beaucoup plus pratique donc.
Effectivement.
Donc, superviser tout ça avec soit les outils basiques de l'operating system dont on a discuté, ou Operation Manager qui permet de faire ça. On n'arrête pas les services EFRS et DFSR, on laisse le système vivre sa vie. On nettoie les métadatas des contrôleurs de domaine orphelins. Donc, on vérifie bien qu'il n'y a pas de vieux décès qui sont encore présents dans l'environnement. On essaye d'éviter de mettre un antivirus qui va tripoter tous les fichiers dans le SysVol, parce que effectivement ça peut créer une réplication excessive, parce que l'antivirus va jouer avec le fichier, le DC peut croire qu'il y a un changement, donc il va notifier ses partenaires d'en face.
Effectivement, donc, on a un article technique qui précise les exclusions de certains fichiers répertoires de l'antivirus, comme le SysVol, le NTDS.dit, les logs du NTDS.dit par exemple, pour éviter ce type de handle sur ces fichiers importants.
Yes. Alors, on en parlait tout à l'heure, hein, tu nous donnais déjà un petit aperçu de l'anatomie d'une GPO. Une GPO, c'est effectivement un objet qu'on appelle le GPT, Group Policy Template, qui est le fichier, en fait un ensemble de fichiers qui sont stockés dans le SysVol, et puis c'est ce qu'on appelle le GPC, le Group Policy Container, qui est quelque chose qui est stocké dans la partition du domaine, à l'intérieur de Container System et dans la partie Policies.
Exact. Ces deux parties, bien entendu, sur la partie GPC, on a des versions de cet objet, mais cette version est représentée par un attribut, comme d'autres attributs, comme le nom, le GUID, donc l'identifiant de cette GPO unique. D'ailleurs, souvent, donc, si vous ouvrez, que ce soit utilisateur et ordinateur, sous système policies, vous verrez les noms de ces stratégies de groupe par un identifiant qu'on appelle GUID. Et de la même façon, la même GPO, la partie GPT, dans le SysVol, elle va avoir un nom qui est équivalent de ce même guide.
Ok, donc ce qui est présent dans l'AD, le GPC, ça indique qui et où la GPO est appliquée.
Effectivement.
Donc c'est là en fait où le DC va la machine va booter, va discuter en LDAP, dire voilà, je suis Toto. Toto dollar, c'est mon nom de machine par exemple.
Voilà.
Du coup, AD va lui dire tu dois appliquer tac 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 une liste de GPC.
Nous avons pour chaque GPO, on doit avoir, chaque ordinateur ou utilisateur va avoir les droits de lecture et d'application des GPO. Par défaut, donc nous allons énumérer, la machine si elle boot, elle va énumérer les stratégies de groupe qui sont liées à son arborescence. Donc, ceux qui sont dans son OU, dans une OU parente, dans le domaine, dans le site si c'est le cas, et localement s'il y a des GPO qui ont été configurés localement.
Ouais.
À partir de ce moment-là, la GPO va aussi, donc cette énumération va nous permettre d'énumérer aussi les droits qu'on a sur cette GPO.
Voilà.
Parce que nous pouvons mettre des filtres de sécurité en disant tel groupe d'utilisateurs ou de machines ne peuvent pas, même si cette GPO elle est énumérée dans leur arborescence, ne peuvent pas l'appliquer. Ils peuvent la lire, mais ne peuvent pas l'appliquer. Une fois que c'est fait, il y a un attribut qui nous permet de savoir où réside la partie GPT. Et donc, on a le lien vers, dans notre cas, c'était C2.Windows 6Vol, mais ça peut être sur une partition D2.6Vol ou autre. Donc, ces informations-là sont aussi bien précisé dans cet objet GPC.
On les voit, hein, les métadatas qui sont là, le display name, l'object, et puis un truc qui est important aussi, le numéro de version.
Ce numéro de version, on va le retrouver en tant qu'attribut dans le GPC, et dans le GPT, on a un fichier qui s'appelle gpt.ini. Si on l'édite avec un éditeur de texte, on va voir la version qui devrait doit être à un moment donné la même que la version présente dans l'attribut du GPC.
Mais c'est pas la même, qu'est-ce qu'on fait?
Si c'est pas la même, on n'applique pas cette stratégie groupe, sauf si c'est une stratégie de sécurité.
D'accord, ça veut dire que globalement, on a un décalage entre la réplication de l'AD et la réplication du sysvol. Donc on se dit, finalement, le truc, il n'est pas à jour, donc ce n'est pas la peine d'appliquer voilà. Le truc.
Nous appelons ça un mismatch de version. Mm-hmm. Et donc, si la GPO n'est pas à jour entre l'AD et le sysvol, d'où l'importance de la supervision de la réplication du sysvol d'FRS ou de DFSR, mm-hmm. Si dans le cas où on n'a pas les mêmes versions, donc on n'applique pas les GPO, tout dépend de leur extension, bien entendu.
Yes, donc le GPT, ce qu'on trouve dans le sysvol, c'est en fait, c'est un interview dossier policy, c'est le GUID qu'on trouve également dans l'Active Directory, dans le GPSC. Et puis, ça correspond, enfin, le nom du GUID correspond au CNM, la première partie du nom de mon objet AD.
Effectivement. Et on a deux répertoires, trois répertoires exactement.
Voilà.
Un qu'on a déjà oublié qui s'appelle ADM, mm-hmm. parce qu'on a voulu le retirer tout à l'heure.
Ouais.
Donc, ces ADM, c'est des templates par défaut.
Templates d'édition. Hein.
Voilà. Ces templates, donc, c'est des formulaires, hein, en quelque sorte. Ces mm-hmm. formulaires, il y en a qui sont par défaut, mais vous pouvez aussi créer vos propres formulaires ou télécharger des formulaires qui existent mm-hmm. Pour certaines applications, par exemple d'Internet Explorer ou de Office. Mm-hmm. Il y a des formulaires qui ne sont pas par défaut que vous pouvez télécharger.
Les fameuses ADM, ADMX qu'on télécharge sur Microsoft.com.
Exactement. Et derrière, nous avons encore deux répertoires, un qui s'appelle User pour les utilisateurs mm-hmm. et un qui s'appelle Machine pour les machines. À partir du moment où on crée une nouvelle GPO, donc on crée un nouveau formulaire, c'est celui qui va être appliqué mm-hmm. à partir du formulaire existant et on le retrouvera sous donc l'arborescence machine ou utilisateur.
Ouais, et dans là-dedans, on aura nos fichiers POL hein, qui vont décrire la registrie de la machine. Et puis, on aura aussi les CSE spécifiques data. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce truc-là?
Alors, les extensions dont on parlait, mm-hmm. tout dépend de la nature de la stratégie mm-hmm. qu'on veut appliquer. Donc, ça peut être de la sécurité, ça peut être uniquement de l'administratif, ça peut être des folders de redirection, des partages, c'est séparé par des DLL, donc des librairies différentes, et donc c'est appliqué d'une façon différente.
Des client-side extensions, du coup CSE, ça vient de, ça vient de là. Donc en fait, on aura des espèces de blobs CSE, et chaque extension sur le poste client qui est responsable de l'enforcement de la GPO, hop, il va lire son petit blob qui lui correspond à lui. Il va comprendre le merdier, pour être technique, hein, que lui a été envoyé dans le sysvol, et puis il va l'appliquer selon la procédure qui lui est propre.
Exactement. Et donc ça nous permet aussi de favoriser une certaine priorité des GPO, donc des parties de la GPO qui est plus sécurité mm-hmm. que d'autres qui sont un peu plus
environnement
classique. Ou différentes choses dans le bureau qu'on veut enlever ouais. ou sur IE, etc. Donc, on a aussi une autre notion qu'on ne précise pas ici, mais par défaut, la machine n'applique pas certains GPO si la bande passante est faible.
Ouais.
Donc, on a une espèce de ping qui détermine la bande passante et si c'est moins de 512K, par exemple, les GPO non sécurité ne vont pas s'appliquer. Pour donc éviter.
Ça dépend, je crois, de la version de l'OS. On aura vraiment un ping dans les vieilles versions de l'OS ou on aura plutôt dans les versions récentes de l'OS un probing de latence TCP qui sera plus.
Exactement.
Plus
et on voit bien entre XP qui est donc plus supporté et entre Windows 7, 8 ou 8.1 des différences dans l'application et l'optimisation de ces descentes de GPO.
Ouais, pourquoi on a passé de ICMP à TCP pour la mesure de latence? Ben, simplement parce que ICMP pouvait être bloqué. Hein.
Exactement.
Le ping pouvait être bloqué. Donc, synchronisation de GPC et GPT, ben, on l'a déjà dit, on a un petit peu anticipé. Hein. Le version number attribué à D doit être synchronisé avec le GPT.ini qui est présent dans le GPT dans le sysvol. Et puis, la mise à jour des GPO se fait au reboot, au logon d'un utilisateur pour le contexte utilisateur, et puis un intervalle de rafraîchissement qui est aléatoire tous les 90 minutes, il me semble, de mémoire. Hein.
Exactement.
Et puis, on l'applique, bien évidemment. Si le numéro de version est le même, il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de récupération des GPO en local pour récupérer l'info, puisque ce sont les mêmes qui sont déjà présentes en local sur la machine. Allez, on a fait bien de la théorie là, mais on va regarder peut-être un peu plus en pratique à quoi ça correspond. Tu nous parlais de GPMC tout à l'heure. Alors, GPMC.
La console phare, sans elle, nous ne pouvons rien faire.
Voilà. GPMC, c'était présent comme téléchargement sur Windows Server 2003. C'était un petit peu le summum de l'administrateur AD à l'époque. Maintenant, ça s'est systématisé, c'est-à-dire que sur toutes les versions d'AD à partir de 2008, c'est intégré par défaut.
C'est intégré par défaut et c'est la console d'édition de GPO.
Alors, tu as sans doute vu, Nadim, que dans 2012, on a même également amélioré cette console GPMC pour permettre de faire un peu de monitoring de l'état de mon environnement. Donc là, j'ai ouvert GPMC. Hein. Si c'est pas présent sur un serveur membre, bah, j'ajoute la fonctionnalité avec add-windows feature GPMC. Comme ça, j'ai ma console d'administration distante qui est présente sur mon serveur. Et puis voilà. Donc globalement, là, on voit que j'ai ma console GPMC. J'ai mis le focus ici sur mon domaine w2k12-demo.net. Et puis quand je suis vraiment sur la partie initial de cet assistant, il me dit voilà, à l'heure actuelle, tu as sélectionné comme site, comme DC de référence, DC01. Alors il n'y a pas de hasard, hein, il a vu DC01, pourquoi? Bah parce que c'est le PDC Emulator de mon environnement, et le rôle de PDC Emulator, c'est le rôle de chef d'orchestre pour la synchronisation des GPO. C'est lui qui va dire les GPO c'est ça, et les autres auront juste à obéir. Donc là, il a pris Site Name Corporate Network, l'IP adresse c'est celle-ci, 121, là il n'a pas encore fait de collection de l'état. Et puis là, il n'a pas encore fait de collecte non plus de l'état de mon environnement. Donc là, il me dit, si tu veux voir un petit peu ce qui se passe sur ton environnement, appuie sur le bouton Detect Now pour voir si ça réplique un peu dans ton environnement ou pas. Et bien, on va suivre ses instructions. Hein. On va par ici, Detect Now. Il va chercher l'état de l'ensemble de mes contrôleurs de domaine dans l'information et puis il va nous générer un petit rapport qui va nous dire est-ce que tout ça, c'est bien en ordre ou pas. Alors là, Nadim, est-ce que tu peux nous donner un petit œil expert sur l'état de mon environnement? Là, on voit qu'on a deux contrôleurs de domaine, donc DC03 et DC04, dont deux différents sites avec deux adresses IP. Et puis, on est dans la partie vert, donc a priori, c'est plutôt bon.
Exactement. Si on a un 0 devant le point d'interrogation, c'est qu'on a, et qui est en, bien entendu en rouge, c'est que nous sommes bons. Et sur la partie verte, donc on voit bien que on a les deux contrôleurs 03 et 04 qui synchronisent bien la réplication. Donc ça permet de savoir que nos contrôleurs domaines sont bien à jour et constants dans leur version de.
Donc là, on vérifie le système de réplication. On ne vérifie pas la consistance des GPO, on ne vérifie rien du tout concernant la nature des GPO. Hein. Donc, si on veut vérifier la nature des GPO, on a un outil pareil qui fait partie du ressource kit en 2003 qui s'appelait gpotool.exe, qu'on a toujours la possibilité de télécharger sur microsoft.com, qui marche toujours. Donc là, je vais utiliser cet outil-là, gpotool.exe. Je vais lui spécifier mon nom de domaine, donc là, w2k12-demo.net. Et puis, je vais lui dire, en même temps que tu es là, tu vas checker les ACL. C'est-à-dire que tu vas vérifier que sur l'ensemble de mes contrôleurs domaine, les ACL sont bien consistantes. Ce qui, pareil, pourrait être problématique si ce n'était pas le cas, parce que, on va dire, si à un instant T, il va récupérer les GPO sur un DC, et à un instant T, il va sur un autre DC qui n'a pas les mêmes ACL, bah, il pourrait potentiellement pas appliquer la même chose.
Effectivement, le GPO tool, par défaut, va nous énumérer toutes les GPO dans le domaine et va voir s'il n'y a pas une différence de version entre le 6V et l'AD, ainsi que l'accès. À ces GPO, parce que si on a un problème, bien entendu, de droit, on ne peut pas récupérer les GPO. Et on a des switches en plus comme le check ACL qui va permettre d'avoir un peu plus de verbosité sur l'état du 6V et de ses permissions sur chaque DC.
Yes, alors vous voyez, j'ai ouvert un CMD en background et puis j'ai tout dumpé dans gpotool-mva.txt.
Maintenant, nous, le TXT, c'est plus.
Hop, on va aller voir un peu ce qu'il y a dedans. Dans mva-tool. Donc, on va l'ouvrir avec Notepad. Hein. C'est un outil qui est suffisamment puissant pour ce genre de choses. Là, il va me dire validating DC. Available DC. Donc il a bien été chercher les 3 DC, il a trouvé 8 stratégies de groupe dans mon environnement. C'est un tout petit environnement que j'utilise pour des petits tests. Et puis là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit déjà Policy OK pour IPAM Demo DC NPS. Donc là, on voit que cette stratégie-là, OK, Elle est consistante sur...
Elle est consistante, accessible.
Consistante, cohérente pour être un petit peu plus français.
Effectivement.
Consistant étant un anglicisme assez moche. Puisque nous sommes des amis de la langue française dans cette chaîne MVA.
Tout à fait, monsieur Arnaud.
Regardons un peu plus en détail. Par contre, là, je crois qu'il y a des choses qui devraient t'attirer ton œil de,
tout de suite.
D'expert.
Pourquoi ? Parce que par défaut, vous avez quelque chose de très important qu'il faut connaître en tant qu'administrateur Active Directory. Mm-hmm. Quand vous créez votre domaine, vous allez avoir un sysvol qui contient deux stratégies de groupe par défaut. Mm-hmm. Une qu'on appelle la Default Domain Policy, mm-hmm. qui s'applique à tous les objets mm-hmm. Utilisateurs ordinateurs du domaine.
Ouais.
Ainsi qu'une autre qu'on appelle la Default Domain Controller Policy, mm-hmm. qui s'applique à l'OU, contrôleur de domaine, qui contient des contrôleurs de domaine.
Parfait.
Et qui est assez sécurisé pour éviter, par exemple, accéder au contrôleur de domaine à distance avec n'importe quel compte, etc. Mm. Maintenant, ces deux stratégies de groupe par défaut ont toujours le même nom, c'est-à-dire le même identifiant. Mm-hmm. La 31B. 6F9, pardon, la 31B qui commence toujours par 31B et qui finit par F9, c'est la Default Domain Policy. Donc, sans avoir à lire le nom de cette GPO, je sais tout de suite que c'est la Default Domain Policy. Mm-hmm. Et on voit bien qu'il y a un mismatch entre l'AD et le sysvol.
Donc là, il nous dit le numéro de version que je vois dans le GPC. Donc,
exactement. Si je vais sur le conteneur de cette
Active Directory,
stratégie groupe dans Active Directory, je clique droit dans les propriétés en utilisant par exemple un outil comme ADS et Edit qui mm-hmm. permet d'éditer donc ce service d'annuaire LDAP.
Voilà.
Nous pouvons voir cet attribut en version 20. Mm-hmm. Si je vais sur le contrôleur de domaine, par exemple DC01, j'ouvre 106 vols, j'ouvre le répertoire avec qui s'appelle 31B finissant par F9, mm-hmm. j'ouvre le fichier gpt.ini et je trouverai une version qui est égale à 8.
Ouais.
Dans ce cas, nous avons un problème sérieux sur cette...
Donc, ça veut dire que là, que cette stratégie-là, elle n'est sans doute pas appliquée sur mon environnement.
Effectivement.
Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a ce genre de configuration? Comment est-ce qu'on interprète? Et là, qu'est-ce que je pourrais faire sur mon environnement pour corriger cette erreur? Là, je vois que sur les 3 DC, j'ai le 3 mêmes symptômes. C'est-à-dire que ça n'a pas l'air d'être un problème de réplication, puisque j'aurais dans ce cas-là...
Effectivement, on aurait peut-être sur tous les contrôleurs, je veux dire toutes les GPO, ou sur un contrôleur, ce qui ne réplique pas. Mm. Dans ce cas, je pense qu'il y a eu un problème sur cette stratégie groupe en particulier. Mm-hmm. Nous pouvons l'éditer. Mm-hmm. Et le fait de l'éditer et de modifier un paramètre qui n'est pas important et de le remettre par exemple, à l'état initial, mm-hmm. permet d'augmenter la version et
voilà.
de forcer donc, les deux versions à se remettre à jour. Mm-hmm. En général, ce type de manipulation permet de remettre à jour. Si cela ne permet pas à mettre à jour, c'est qu'on a besoin de plus de verbosité dans le troubleshooting.
Voilà. Une alternative à ça pouvant être également de mettre à jour le fichier gpt.ini avec la version 20 également dans le sysvol.
Voilà. Nous ne recommandons pas vraiment cela mm-hmm. parce qu'on passe encore en pilotage manuel.
Voilà.
Nous laisserons le système le corriger lui-même juste en ayant dans la console d'édition de la GPO.
Parfait. Donc voilà à quoi ça ressemble un petit exemple d'environnement qui ne marche pas. Est-ce que c'est valable pour la default domain policy? Donc là, si on parcourt un petit peu le reste de mon log.
Voilà, la 6ACF9.
Hein, ouais.
Donc, c'est la default domain controller policy. On
ouais.
voit bien qu'elle est OK.
Elle est OK, elle est répliquée partout, elle est cohérente, elle est consistante. Et là, si je regarde, je vois que j'ai une autre qui s'appelle IPAM Demo DHCP et qui là, par contre, a une erreur entre DC01 et DC04. Donc il y a un problème de 6 vols qui n'a pas la même version. Donc là, il y a plutôt un problème de réplication qui est localisé entre les deux contrôleurs de domaine.
Effectivement, ce problème est bien différent de la version entre déjà le 6 vols et l'AD. Mm-hmm. Et le fait que ces deux contrôleurs de domaine ne sont pas à jour peut remonter à un moment donné un problème de réplication FRS ou DFSR. Tout dépend de la version que vous avez. Et de cette façon, il faut vérifier la réplication si elle fonctionne bien et peut-être aussi remettre, éditer cette GPO à nouveau pour permettre entre ces deux contrôleurs une réplication à nous de cette GPO.
Parfait. On a quelques autres petits symptômes qui sont assez semblables pour d'autres GPO. Là, on a la domaine auto-enroll qui avait été créée et qui, a priori, pareil, a un petit problème entre DC01 et DC04. Donc là, on a sans doute le même symptôme qui se passe. Ouais. Bah voilà, c'est vraiment un utilitaire qui est à la base des bonnes pratiques sur l'état de l'objet GPO pour vérifier que on peut avoir parfois des plaintes d'utilisateurs qui vont dire ou d'administrateurs qui vont dire ma GPO elle s'applique pas sur tel environnement, pourtant j'ai tout qui est bon, j'ai la bonne OU, j'ai les bons sécurité filter, tout est bon sauf que ça se passe pas comme ça devrait se passer. Et bien, GPO Tool permet vraiment de diagnostiquer ce genre de situation pour ce genre d'erreur du système. Hop, on jette un petit coup d'œil dans ADSI Edit, juste pour voir à quoi ça ressemble. ADSIEdit.msc. Donc on disait tout à l'heure que c'est stocké dans le domaine. Si on regarde là dans mon environnement, je suis dans la partie, j'ai pris le default naming context, donc le dcw2k12demo.net. Mm-hmm. Je vais dans la partie système, j'ai un container qui s'appelle policy, et puis là, tu nous parlais du default domain policy qui était le 31B, c'est ça ?
Exactement, F9 qu'on a en seconde position.
Donc là, 31B2 qui se termine par F9. Si je double-clique sur l'objet, je vois qu'effectivement j'ai la partie machine, la partie utilisateur. Et si je vais dans les propriétés de cet objet, je vais voir ses attributs et je vais voir qu'effectivement c'est bien la default domain policy. Parmi les champs qui sont intéressants, j'ai le GPC file syspath, donc là qui me dit où est-ce que est stocké ce machin dans mon sysvol. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre comme information intéressante ? Le version number, qui est ici positionné à 20. Donc, si on reprend le parallèle avec le contrôleur de domaine et le sysvol, si on va par exemple ici dans w2k12, // w2k12-demo/sysvol, je vais dans la partie policy, on te rappelle. Toujours le 31B, on zoome dessus,
on
va aller voir.
On est bien dans la partie GPT.
Voilà.
On n'a pas les ADM parce que Arnaud a bien fait de centraliser ses templates et d'éviter leur réplication à travers tous les contrôleurs de domaine.
Ouais.
Donc on n'a que les parties où elle s'applique. Elle est en version 8.
Donc là,
on voit bien le gros mismatch entre 8 et 20. Il y a eu 12 changements qui n'auraient pas été pris en compte par le sysvol.
Donc là, il y a bien quelque chose qui me tente, ce serait de faire ça, mais je vois que tu réprimerais ça d'un œil sévère. Donc je ne vais pas la sauvegarder. Et dans ce cas-là, la vraie manipulation.
Je préfère que tu appliques mes recommandations.
Alors, eh bien, mon cher Nadim, je vais appliquer tes recommandations. Donc c'est la default domain policy. Dans ce cas-là, je fais l'édition. Je modifie un paramètre. Je joue avec un paramètre.
Par exemple.
Hop.
Qui n'est pas évité d'utiliser un paramètre délicat qui va s'appliquer entre temps, le temps que vous le changez deux fois.
Exactement.
On applique quelque chose qui n'est, par exemple, un audit fail ou success sur quelque chose et on remodifie dans la.
Ouais. Donc, on va pas le faire là, mais on a compris l'idée. Je fais un changement, le changement va être écrit du coup et va provoquer la resynchro de l'environnement.
Exactement.
Si ça ne marche pas, alors là, on peut utiliser la méthode un petit peu rustique, alternative que j'ai mentionnée, mais on ne reviendra pas dessus parce que ce n'est pas la plus orthodoxe. On a vu les deux outils, GPMC et GPO Tool, pour vérifier d'une part le système de réplication et puis pour d'autre part la santé des GPO en tant que telles et leur application sur mon environnement. Des problèmes courants pour les GPO, ça va être un grand nombre de GPO, donc un problème de consolidation sur les OU, parce que c'est vrai qu'on a un peu tendance à les accumuler avec le temps d'un endroit à l'autre, donc des problèmes de redondance. Mais là, on est au-delà du scope de notre cours, parce qu'on comprend qu'on est là dans des considérations qui sont plus organisationnelles. Comment est-ce que je vais consolider mes GPO sur mon environnement, c'est très différent du système en tant que tel. On peut, en tant qu'administrateur Active Directory, s'assurer de la cohérence de l'application des GPO, mais aller dans la paramètre et la consistance des paramètres dans une organisation, c'est plus quelque chose qui est organisationnel. Parce qu'il faut aller là se mettre en relation limite avec les business units qui sont en charge des différentes organisations et puis commencer à consolider l'ensemble des paramètres. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qui est évident, cette tâche-là. En tout cas, qui demande beaucoup plus d'ingénierie, humaine.
Du moins, la notion de GPO, elle est ou de troubleshooting de GPO. Nous avons la partie client, nous avons la partie serveur, nous avons la partie réseau, nous avons la partie organisationnelle. C'est beaucoup de choses qui sont liées et qui peuvent intervenir à n'importe quel moment de la non-application de la GPO. Donc là, c'est vrai qu'on a partagé avec vous la partie plutôt serveur, mm-hmm. plutôt réplication, plutôt configuration. On a parlé un petit peu des client-side extensions et comment ça se fait au niveau client. Mais effectivement, après, il reste encore quelques autres moyens à vérifier si on a une inconsistance d'application ou non-application de certaines GPO.
Exactement. Les bonnes pratiques, eh ben, tout ça, superviser la réplication, implémenter un processus de gestion du changement, revoir les GPO, supprimer les anciennes si nécessaire, mettre uniquement des fichiers liés aux GPO dans le SysVol, ne pas stocker des choses qui n'y sont pas liées, seulement des scripts de logon dans NetLogon, et ça aussi on le voit tout le temps, du stockage de fichiers MSI dans le NetLogon, parce qu'on se dit ça va être pratique, j'ai un script qui va installer tel composant, bon ben, je vais mettre le MSI du composant dans le NetLogon, ça va pas se voir. De la même manière, c'est pas ce qu'il y a de mieux, ça a rien à faire là, en tout cas, utiliser GPMC pour l'édition, et puis faire des sauvegardes en utilisant GPMC, limiter l'utilisation dans l'édition des GPO du blocage de l'héritage et du forçage, parce que ça force des comportements qui sont pas par défaut, et du coup, quand on fait un troubleshooting, bah, c'est pas forcément évident de penser à ces options. Le filtrage par groupe de sécurité seulement quand c'est nécessaire et puis utiliser un central policy store qui est une manière d'optimiser la prolifération des ADM dans votre SysVol. C'est documenté sur TechNet très en profondeur, donc on vous invite à y jeter un petit coup d'œil. C'était riche ce petit tour d'horizon, Nadim. On a vu, qu'est-ce qu'on a vu pour résumer, rappelle-moi un peu la mémoire là, dans cette session.
On a vu déjà la composition d'une stratégie de groupe. Sa partie qui est sur le SysVol, comment elle est répliquée, mm-hmm. les différents moteurs de réplication, leur migration aussi, les meilleures pratiques. Puis nous sommes rentrés un peu plus dans la composition et le fonctionnement des groupes policy, des stratégies de groupe, ainsi que des outils de leur édition, de leur vérification et de troubleshooting dans le cas où elles ne s'appliquent pas.
Wow, super. Eh ben, ça nous a mis un bon début pour bien connaître notre Active Directory en profondeur. Merci Nadim pour cette session dédiée au GPO.
Merci Arnaud.
Et on se retrouve dans un module prochain pour parler cette fois-ci de DNS
et de notre colonne vertébrale.
Absolument.
De l'Active Directory.
Merci Nadim.
Merci Arnaud.